À présent,
Frédéric Worms.
À présent, la science au cœur du présent avec ce soir Bernadette Binsaud-Vincent et Pierre Corvol. La science au cœur du présent. La crise du coronavirus a mis la science sur les feux de l'actualité, pour le meilleur et pour le pire, et en apparence sous tous ses aspects, mais peut-être pas d'une manière si générale que cela, aussi sous les aspects qui étaient déjà au cœur du présent en un sens plus large, non pas seulement d'une crise ponctuelle, mais de notre époque en général et qui était en train d'être construit. Nous devons donc revenir sur ces enjeux de la science dans l'actualité, dans la crise, mais dans le présent en général. Nous le faisons ce soir avec Bernadette Binsaud-Vincent, professeure émérite de philosophie des sciences à l'Université Paris 1 et membre de l'Académie des technologies, et Pierre Corvol, actuellement président de l'Académie des sciences, membre de l'Académie de médecine et professeur au Collège de France. Bonsoir à vous deux, bonsoir Pierre Corvol.
Bonsoir Frédéric Worms.
Merci beaucoup d'être là ce soir. Bonsoir Bernadette Binsaud-Vincent. Je suis très heureux de vous réunir ce soir. Je disais, et je voulais savoir si vous étiez d'accord, que la science a de toute évidence été, est encore au cœur de la crise du coronavirus, sous des aspects inédits, dans tous les journaux télévisés, dans toutes les émissions de radio, et encore ce soir. Mais au fond, vous faites partie de ceux pour qui ça n'est pas une surprise. Vous étiez déjà en train de construire, au fond, les enjeux sociaux, la place de la science dans notre société, la place du débat autour de la science. Pierre Corvol, vous êtes aujourd'hui président de l'Académie des sciences, qui est un rôle aussi institutionnel très important, et les institutions jouent un rôle central. Vous aviez aussi été chargé d'un rapport sur l'intégrité scientifique, au fond, et qui montrait déjà que la science avait besoin aussi de cadres, d'institutions. Vous étiez prêt à affronter cette crise? Est-ce que ces instruments vous ont permis de penser, de préparer un peu ce qui a été tout à coup sous le feu des projecteurs, aussi sous le signe de l'intégrité scientifique ou de la place de la science dans le débat social? On y reviendra aussi avec Bernadette Binsaud-Vincent, bien sûr.
Ben, je pense que pour aborder la crise, il faut des outils. Un des outils pour évaluer en quelque sorte la science qui se déroule à toute allure sous nos yeux, c'est bon d'avoir l'outil intégrité scientifique. C'est un outil relativement récent puisque c'est une préoccupation des chercheurs depuis une vingtaine d'années seulement. En France, on a travaillé sur ce sujet à la demande de Thierry Mandon, qui était à ce moment-là secrétaire d'État à la recherche et à l'enseignement supérieur, en 2016, et on a même créé un office français d'intégrité scientifique. Et je m'en félicite, parce que ça m'a, en tout cas pour moi, amené à faire la distinction entre intégrité scientifique, qui est finalement la manière intègre de conduire la science. C'est absolument indispensable que les chercheurs et le public croient à ce qui est publié, démontré, etc. Mais en même temps, ça nous a permis de distinguer cette attitude de l'éthique, qui est une autre chose plus complexe. L'intégrité scientifique, ça ne se discute pas. L'éthique, ça se discute. Et donc, voilà, c'est une manière, au fond, c'est un prisme particulier utile aujourd'hui pour analyser ce qui se passe.
Et pourquoi est-ce qu'on en avait eu déjà besoin avant des débats d'actualité immédiate et parfois urgente, Pierre Corvol? Pourquoi est-ce qu'il y avait eu ce besoin de formaliser l'intégrité scientifique? Vous dites ça se discute pas, parce qu'évidemment ça relève de la déontologie, qui est quand même aussi une partie de l'éthique, mais vous la distinguez de l'éthique, par exemple, des usages de la science, où là il y a des débats sociaux très légitimes. Mais vous dites la déontologie, ça, l'intégrité, ça ne se discute pas. Alors pourquoi est-ce qu'on vous a demandé un rapport si ça se discute pas finalement? Et ça prouve bien que ça se discute pas, mais ça se rappelle, ça s'institue quand même.
Il y a eu un moment un peu angélique où la science était pure entre guillemets. Il faut voir Poincaré dans ses réflexions qui parle d'une science qui finalement est une science à la limite de la morale. Donc il y a pas de discussion sur l'intégrité de la science, ça n'existe pas. Et puis progressivement on a vu que voilà, la science pouvait être pervertie par certains à leur profit, qu'il y avait des fraudes, des falsifications, des fabrications de résultats, des plagiats pour des raisons lucratives, hein, très clairement. Et malheureusement, avec l'expansion de la science aussi, on a vu ces travers, ces manquements à l'intégrité scientifique se développer.
C'est donc finalement l'intégrité, c'est quand même quelque chose de très précis. Ça n'est pas n'importe quoi. C'est pas seulement une vertu personnelle. Il y a des critères finalement.
Il y a des critères précis, absolument. Et d'ailleurs, ils sont énumérés dans des chartes. Alors les chartes de Singapour en 2010, ça date déjà donc d'un certain temps. Et puis ensuite reprise par les différents pays, par notre propre pays qui a édicté une charte. Des métiers de la recherche et qui inclut tout le monde, et donc les administratifs, les techniciens, les ingénieurs, aussi bien que les chercheurs, car il peut y avoir des déviations à une conduite intègre. Alors, je voudrais dire un petit mot qui est important, c'est que nous, en France, on parle d'intégrité scientifique. Ouais. Mais en fait, aux États-Unis, on parle d'intégrité de la recherche, research integrity. Alors ça, c'est intéressant parce que nous englobons de façon un peu plus large l'intégrité de la science. Et à un moment où, actuellement, il y a une pression d'un certain nombre de politiques pour avoir un vaccin aussi vite que possible à une date que je n'ai pas besoin de vous dire, dit un certain Donald. C'est une manière aussi de tordre le cou à l'intégrité des scientifiques qui peuvent être tentés à un moment donné, qu'ils soient dans le secteur privé ou public, d'accélérer leurs résultats. Donc je pense que l'intégrité scientifique, c'est quelque chose de très important. Et avec le climat, et avec d'autres, l'énergie, avec ces grands sujets, je pense que il est utile qu'on réfléchisse et qu'on s'arrête là-dessus.
Il y a des pressions majeures sur l'intégrité scientifique, c'est ce que vous venez de rappeler, Pierre Corvol, qui peuvent venir de l'extérieur de la science, qui peuvent venir aussi de l'intérieur de la science. Vous avez dit qu'autrefois, la science était pure. Il y a un auteur que vous connaissez bien, Bernadette Binsault-Vincent, Michel Serres, récemment disparu, qui avait écrit, vous vous en souvenez, que il n'y a pas le seul mythe pur, c'est le mythe de la science pure. C'est-à-dire que la science est toujours traversée. Il avait beaucoup travaillé sur les rapports entre la science et le pouvoir, mais non pas juste pour critiquer la science, mais pour la protéger finalement aussi contre des risques, pas pour dire toute science est pouvoir, mais pour la protéger de ces risques. De votre côté, Bernadette Binsault-Vincent, vous aviez aussi beaucoup travaillé sur l'intégrité scientifique, sur l'éthique de la recherche, on y reviendra, la distinction science et recherche. Mais au fond, ce qui vous a le plus préparé à la crise, de votre côté, c'est aussi ce que vous avez travaillé déjà sur la nécessité d'un débat social sur la science. Avant même le Covid, autour de la COP, de l'environnement, il y a une place de la science qui revient, mais dont doit se saisir la société. Donc là aussi, le Covid vous a peut-être pas tant surprise que ça. Les enjeux, la critique de la science, la place de la science à côté du pouvoir... C'est votre élément de philosophie des sciences depuis longtemps.
Oui, le Covid n'a pas changé. Il a simplement fait voir dans la sphère publique ce qui se passe dans le quotidien de la recherche, me semble-t-il, à savoir que la science est toujours sous pression, soit économique, soit politique, soit militaire dans certains cas, et que c'est un régime, effectivement, il n'y a pas de science pure, il n'y a jamais eu de science pure. Il ne faut pas. Ce qu'il y a, c'est que maintenant, elle dépend beaucoup plus, c'est ce qu'on appelle le régime techno-scientifique, elle dépend beaucoup plus des politiques au sens où le financement de la recherche se fait sur projet. Et sur projets qui sont décidés par des instances où il y a des scientifiques, mais où il y a des politiques, des industriels, des acteurs.
Donc là, le degré supplémentaire, vous voulez dire, c'est que le politique peut même orienter les objets de la recherche.
Le politique
pas seulement
oriente.
Les usages ou le contexte, mais les objets même.
Le politique oriente la recherche et les programmes de recherche. Par exemple, l'Union européenne favorise certains programmes de recherche au détriment d'autres. Par exemple, au cours des dernières, depuis 2000, les années 2000, et dans le cadre de Horizon 2020, eh bien, l'Union européenne a favorisé ce qu'il appelle des flagships, c'est-à-dire des projets étendards, lourdement financés, puisque c'était 1 milliard d'euros sur 10 ans. Sur des sujets tels que le Human Brain Project, ou bien, c'est-à-dire le projet cerveau humain, ou bien le projet sur le graphène, qui est un projet nanotechnologique. Voilà. Et donc, pas sur des projets, les virus. Les virus n'étaient pas du tout à l'ordre du jour.
Est-ce que si les savants Bernadette Binceau de Vincent et Pierre Corvol, qui est médecin et pourrait nous le dire évidemment aussi, si les savants avaient choisi eux-mêmes leurs objets, vous pensez que les virus auraient été au premier plan pas forcément non plus.
Je pense que ça aurait été la même chose. D'ailleurs, les chercheurs ont participé à la définition des
programmes. Des priorités.
Voilà, des priorités. Donc, cette sous-pression, mm-hmm. ça se fait aussi avec les instances de la recherche. Mais ce qui veut dire que ce qui me paraît important, c'est que le public n'est pas tellement au courant de cela. Et que, en particulier, les sondages qu'il y a eu récemment, tant au niveau européen que les sondages faits par le Ratana Institute, montrent qu'effectivement, il y a une perte de confiance dans la science. Et l'intégrité, je crois que vous le rappelez, Pierre Corvol, dans votre rapport, l'intégrité scientifique est essentielle pour entretenir la confiance dans la science. Mmh. Or, il y a une perte de confiance, il y a une défiance. Mais cette défiance, elle est en réalité très très subtile. Les sondages montrent que, en particulier le sondage du Ratana Institute, qui est aux Pays-Bas, montre que ce qui est au top niveau de la confiance dans l'opinion publique, c'est la science avec un grand S, la science pure. Ce qui est au plus bas niveau de la confiance du public, ce sont les politiques. Et en dessus des politiques, les industriels. Et notamment les industries pharmaceutiques. Donc, le public a une très grande confiance dans la science parce qu'il a une confiance dans le mythe de la science.
Il la conçoit comme pure, justement.
Dans le mythe de la science pure et qu'il n'est absolument pas au courant des conditions réelles de la recherche.
Est-ce que vous pensez, vous, Bernadette Binceau de Vincent, c'est qu'au fond, si on croit que la science est pure et qu'on s'aperçoit qu'elle ne l'est pas, on perd brutalement la confiance, alors que si on assume cette relation inévitable, finalement, entre la science et des intérêts des sociétés, portés aussi par les politiques et aussi par les citoyens, si on l'assume, si on l'encadre, on crée une confiance dans la vérité de la science, qui a sa vérité, quand même. Dire qu'elle n'est pas pure, ça ne veut pas dire qu'elle est relative, mais en même temps, qui est toujours connecté aux intérêts sociaux et vitaux des humains. Et donc, il faudrait l'assumer, ce lien.
Il faut l'assumer et le rendre public. Je veux dire qu'il est très important que, dans la diffusion des sciences, on présente les conditions réelles de la recherche et qu'on fasse plus de la diffusion de la recherche que des résultats de la science, à la limite. C'est plus important pour défaire le mythe de la science pure.
Pierre Corvol, est-ce que c'était aussi le sens de votre rapport sur l'intégrité, que justement de rendre manifeste quelque chose qui était présenté comme évident, et qui du coup était tellement évident que les savants étaient intègres, que quand il y avait une faute personnelle ou une pression politique, toute la science semblait s'écrouler. Alors qu'en fait, si on assume des risques et des liens réels entre la science et les intérêts des humains, si on les encadre, peut-être c'est la seule bonne façon de la protéger. Ça n'est pas pour la fragiliser, c'est pour la renforcer, Pierre Corvol. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ?
Oui, je pense que l'idée sous-jacente, c'était de montrer finalement la démarche du scientifique, avec les obstacles qui, au cours d'une démarche, peuvent arriver, les défaillances qui peuvent se produire. Je pense que l'idée que nous avions, c'était de montrer où pouvaient se trouver effectivement les obstacles, pourquoi il y en avait, pourquoi il y avait des failles finalement dans la science qu'ils pouvaient rapporter, et puis en même temps de trouver des solutions. Moi, je trouve que c'était, vous voyez, enfin, c'est très important, les solutions, d'avoir pour un médecin des solutions. Pragmatiques. Voilà, passait que en même temps qu'il y avait un grand mouvement sur l'intégrité scientifique, il y avait un grand mouvement sur la science ouverte, sur la science participative.
Alors la science ouverte, c'est donc l'accès libre aux publications scientifiques, notamment grâce au numérique.
Voilà, exactement. Et aux données.
Et aux données.
Et aux données, parce que finalement, les données, pour moi, c'est encore plus important, parce que les données, ça permet de reconstituer la manière dont les résultats ont été analysés, et présenter les logiciels. Les logiciels sont d'accès libre. Par exemple, à l'Institut national de recherche en automatisme et en informatique, tout est libre d'accès. Enfin, bon, quand il ne
après un certain
pas,
temps oui, aussi certain, de
oui mais peu, oh, peu. Les rapports d'activité de l'INRIA, qui est donc cet institut, ouais,
qui est le grand institut d'informatique français finalement, de,
voilà, se fonde sur la disponibilité des logiciels qui sont produits par les différentes équipes. Les codes sont ouverts à tous, a priori, hein, en dehors des secrets défense ou autres, évidemment on peut pas tout donner, mais c'est vraiment très important à voir. Et la science participative, pour moi, ça fait partie aussi. D'ailleurs, dans mon rapport, j'esquissais déjà ces deux sujets que nous avons repris à l'Académie des sciences, mais non seulement à l'Académie des sciences, mais quand les 7 académies se sont réunies à Paris, dans le cadre du G7, et que nous avions comme mission de proposer des grandes avenues à nos présidents respectifs, j'avais mis la confiance dans la science. Donc
ça, c'était en quelle année, Pierre Corbin?
C'était il y a 2 ans.
Pour montrer donc tout ça c'était était déjà en construction.
C'était en 19? Non, en 2019.
2019.
Ça passe tellement vite.
Oui, oui, mais ça me paraît déjà le monde d'avant. Mais le monde d'avant préparait déjà les dangers de maintenant.
Mais oui, nous avions mis la confiance dans la science avec l'analyse que Madame Vincent Massaud fait, qui était vraiment la nôtre aussi, à tous ces académiciens des 7 pays. Et nous avions mis aussi la science participative.
Alors justement, Pierre Corvol, et je sais que Bernadette Binsot-Vincent, il travaille beaucoup aussi. Est-ce que vous pouvez rappeler la science participative? Ça paraît presque, là aussi, une contradiction. La science, c'est fait pour des spécialistes, c'est fait pour ceux qui se sont formés de manière, justement, presque exclusivement sur ce sujet, entre pairs, finalement, PAIRS. Comment est-ce que vous définissez vous-même la science participative? Pourquoi est-ce que c'est un des éléments de cette construction de la confiance aussi?
Je pense que quand on participe à l'élaboration de la vérité, qui est quand même le but ultime de la recherche et de la science, quand on participe à cette élaboration, on a une démarche, je dirais, on est dans le bain d'une science qui se construit, et que si on peut faire participer nos concitoyens, le public, au sens large du terme, c'est superbe.
Et c'est possible, c'est d'après vous?
Tout à fait possible. Ça existe depuis longtemps, d'ailleurs. C'est pas du tout une invention du 21e. Il y avait des challenges, des contests, comme on dit, qui existaient. La Royal Society, par exemple, pour établir la latitude ou les longitudes, je vais peut-être dire une bêtise, travaillait déjà. Elle avait fait un prix. Pour faire participer les navigateurs.
Les praticiens, finalement.
Ah, absolument. De la même manière que, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de gens passionnés par l'écologie qui vont pouvoir recueillir des informations sur la flore, la faune, que nous ne pourrions pas obtenir. Mmh. Et si on veut voir ce qui se passe dans le temps, avec les applications mobiles, on a la possibilité, avec le GPS, de les localiser, etc. Donc, enfin bref, c'est absolument enthousiasmant. Et puis, pour aller au-delà, et parler de médecine, je pense que la participation des patients, c'est absolument fondamental. On l'a vu avec le sida.
Avec le sida, mais ils ont dû la réclamer.
Oui,
ça ne leur a pas été donné du premier coup.
Absolument, absolument, mais ils ont bien fait. Ça a été un peu violent.
Oui, mais parfois les crises, on va en parler, accélèrent aussi la participation,
exactement,
justement.
Exactement, c'était intolérable. Et même, vous parliez des structures, par exemple. Avant l'histoire du sida, il n'y avait pas de collection, si je puis dire, de données qui, à l'heure actuelle, existent dans les grandes banques de données américaines, mais aussi européennes, pour le recensement des essais cliniques en cours. Par exemple, clinicaltrial.gov, c'est-à-dire la recension de tous les essais cliniques qui se font en ce moment. Si vous voulez taper sur Covid-19, vous avez les...
Chacun peut aller voir, au fond,
absolument, vous avez les 2000 essais. Et l'idée initiale, c'était que les gens qui avaient le sida trouvaient intolérable de ne pas savoir ce qui pouvait se passer ailleurs comme traitement, parce que ils n'avaient aucune information. Donc, ça a été extrêmement bénéfique.
Donc finalement, vous êtes en train de dire l'un et l'autre, et c'est quand même une surprise, je pense, pour moi en tout cas, et sans doute pour beaucoup de ceux qui nous écoutent, que les cadres de la confiance dans la science avait déjà été réfléchie. C'est-à-dire qu'on savait que pour qu'il y ait cette confiance, il faut qu'il y ait des, faut assumer un certain nombre de risques. Il faut aussi construire un certain nombre d'outils et associer les citoyens, construire ce qu'on appelle du côté sanitaire, du côté de la santé, la démocratie sanitaire, quoi que c'est, avec d'autres aspects, et de la démocratie scientifique, ou disons, l'ouverture de la science sur la société. Bernadette Binsaud-Vincent, vous pensez, vous aussi, qu'au fond, les outils étaient quand même là, qu'on n'était pas démunis, finalement, face à l'émergence de la crise, pour l'aborder avec ces outils-là, et avant de voir comment la crise elle-même les a ébranlés ou relancés? Ou bien est-ce que vous avez un regard un peu plus critique, c'est-à-dire sur cette ouverture de la science, est-ce qu'il n'a pas fallu justement à chaque fois quand même qu'il y ait un problème, qu'il y ait parfois un drame, comme une explosion ou justement une épidémie? Est-ce que vous pensez que c'était une tendance au fond qui est irréversible, ou que s'il y avait déjà des crises, des difficultés, des obstacles?
Oui, je pense que des crises, il y en avait, il y en a eu, et que le mythe principal qu'il faut défaire, c'est le mythe du monde d'avant et du monde d'après. Parce que je pense que la crise du Covid n'est que l'une des multiples crises que nous avons à traverser. La crise du climat est toujours là, et elle est en train de bouleverser en profondeur les relations entre les scientifiques et la société dans son ensemble, et de mettre surtout les scientifiques dans une position très très difficile et très délicate. Donc pour ce qui est en tout cas des outils qui...
Mais on voit bien, Bernadette Binsaud-Vincent, pardon de vous interrompre, on voit bien que c'est pas tellement le climat qui était peut-être dans le monde d'avant. Dans le monde d'avant, c'était ce mythe de la science pure, justement, qui était encore très fort. Et maintenant, finalement, en reprenant l'ensemble des enjeux que vous dites, c'est de cela qu'on sortirait quand même grâce à la crise actuelle, grâce à la crise du Covid, qui accélère cette prise de conscience, peut-être.
Est-ce que ça changera quelque chose? Moi, je suis un peu sceptique, parce que il y a des obstacles. On lance des grands slogans, science ouverte, science participative, et en effet, comme vous le disiez, Pierre Corvol, c'est pas une nouveauté, c'est pas nouveau. Il y a toujours eu des amateurs de science qui étaient très, très valorisés au XVIIIe siècle, au XIXe siècle aussi, et qui ont été systématiquement discrédités au XXe siècle. Mmh. Ça, il y a là un renouveau de l'amateurisme dans le bon sens du terme, c'est-à-dire des gens passionnés, des gens curieux, et qui veulent passer du temps pour faire avancer la connaissance. Or, cette...
Et le XXe siècle a produit une coupure entre les professionnels, disons, de la science et ces savants, disons, un peu spontanés, comme diraient certains, ou en tout cas, qui pourraient contribuer autrement.
Je pense que Frédéric Worms, que vous connaissez, vous avez été nourri comme moi de Gaston Bachelard dans vos études, et Bachelard disait que l'opinion pense mal, elle ne pense pas. Mmh. Voilà, c'est une condamnation sans appel, et il reflétait, je pense, l'état d'esprit de la période des grands projets. Spatiaux, nucléaires.
Donc d'une science. La Troisième République française aussi, la rupture, voilà, avec le savoir spontané, puis une sorte de passage au savoir pur par l'institution scolaire.
Voilà, une science très exigeante et qui se défaisait de toutes les connaissances qui n'étaient pas rigoureusement normées par les appareils scientifiques. Et par appareil, j'entends non seulement les instruments, mais tout l'appareil de l'institution, notamment l'intégrité scientifique. Et ce qui me paraît important, en tout cas, c'est que la science participative n'est pas une science folklorique. Elle est et elle doit être très encadrée par les scientifiques. Je veux dire que les amateurs, entre guillemets, sont mis sous tutelle de la science, parce qu'il faut standardiser les données, il faut, sinon c'est pas comparable, et donc on ne fait rien avancer du tout.
Donc il faut un cadre commun pour cette rencontre et pour construire cette confiance et définir aussi les risques, les failles qui peuvent être du côté des citoyens, bien sûr, hein, qui peuvent avoir leur biais idéologique et politique, mais même du côté des savants. Ce qu'on va voir, c'est comment la crise a pu à la fois ébranler, mais peut-être aussi relancer positivement ces dynamiques dont on parle, et cette façon dont la science est au cœur du présent. Mais auparavant, vous avez choisi le Miserere d'Allegri.
France Culture.
À présent.
Frédéric Worms.
À présent, la science au cœur du présent. La science a-t-elle souffert de sa mise sous les projecteurs de l'actualité, sous les feux du Covid, de la pandémie, ou bien cette crise a-t-elle permis de relancer des dispositifs qui permettaient la confiance dans la science? Nous en parlons ce soir avec Bernadette Binceau-de-Vincent et Pierre Corvol. Après cette première pause musicale, Bernadette Binceau-de-Vincent, que vous nous proposiez du Miserere d'Allegri, vous disiez que ça avait un lien avec Michel Serres, dont nous avions parlé tout à l'heure. On peut en dire un mot avant de revenir au cœur de notre sujet qui l'aurait beaucoup intéressé, évidemment. On se demande ce que Michel Serres aurait pensé de la pandémie. Il est mort juste avant, mais il avait anticipé bien des enjeux.
Oui, en effet, il était extrêmement attentif aux parasites, comme on sait, et à la circulation des parasites. Et me revient en mémoire maintenant une phrase de Michel Serres, je ne sais plus dans quel livre, parce qu'il en a écrit tellement que je m'y perds. Il disait que le parasite avait sans doute bien des secrets à nous livrer sur la vie. Et je pense que...
Donc les virus,
Les virus, notamment, le coronavirus, nous livrera-t-il des secrets sur la vie? Il y a un gros élan de recherche qui est fait à propos de cette pandémie. D'un seul coup, tout l'argent, ou en tout cas tous les projets de recherche, se tournent vers le coronavirus. Et il y a énormément de publications dessus. Est-ce que ça va faire avancer vraiment la connaissance de la vie? Est-ce qu'on aura une autre vision sur notre rapport à ce qu'on appelle les êtres
vivants,
infimes,
puis à ces êtres marginaux,
les virus, les microbes, etc., qui sont, ma foi, parmi nous tout le temps? Est-ce que cette crise va changer quelque chose? Je vous pose la question, Pierre Corvol.
Alors, justement, je vois que Bernadette Binceau-de-Vincent se tourne vers Pierre Corvol. Vous avez, Pierre Corvol, fait un avis là, sur les essais cliniques, le développement si rapide de la science pendant cette période. Mais est-ce que vous pensez que... Voilà, qu'est-ce que vous répondriez à cette question sur notre connaissance même du vivant?
Alors ça, c'est une question difficile.
Même quatre médecins.
Oui. Nous, le vivant, ce n'est pas le virus, honnêtement. Mmh. Moi, je trouve qu'on diabolise le virus. Le virus circule. Moi, j'ai jamais vu un virus s'arrêter à un feu rouge.
Il y a des espèces de... un peu ce que c'est qu'un virus, finalement.
Un virus, c'est un bout là, dans le cas présent, d'ARN. C'est pas de l'ADN. La plupart du temps, ce sont des virus à ADN. Bon, ce virus à ARN, c'est un bout d'ARN.
Un
bout d'information génétique. Il peut rien faire par lui-même. Il n'a pas de réflexion, il est méchant, il va nous faire la guerre. Ça me semble quand même un peu infantilisant de dire tout ça. Même si, effectivement, après, il y a des conduites qui peuvent évoquer des temps difficiles de guerre. Mais le virus, ça n'est jamais qu'un fragment d'information. D'ailleurs, c'est d'autant plus vrai qu'on le recherche, vous savez, dans les eaux usées. Mais ce n'est plus le virus, entre guillemets, vivant, comme disent les gens. Non, c'est parce qu'il n'a pas toute l'information génétique pour être pathogène.
De cette petite information, l'étiquette, on recherche l'étiquette.
Absolument, c'est une étiquette inoffensive, mais qui permet de le tracer pour repérer le groupe d'immeubles qui pourrait être contaminé. Donc, moi, je prends la distance quand même par rapport à cette affaire-là, parce que nous n'avons pas besoin de ce virus. Il nous fait prendre conscience d'un certain nombre de choses d'une manière absolument dramatique. Mais tout de même, il faut replacer les choses comme elles sont. C'est très différent, les parasites. C'est très différent, de vivre en symbiose. Les plantes, elles peuvent pas vivre sans parasites.
Mais malgré tout, Pierre Corvol, le fait que ce bout d'information soit entré dans les corps humains, puisse les détruire, circule entre eux, c'est aussi par le biais d'une dégradation de l'environnement, certains perturbations de certains animaux, en Chine par exemple. Est-ce qu'il n'y a pas, comme le suggérait Bernadette Binceau-de-Vincent, une sorte de vivre avec qui a été perturbé et on doit réapprendre à vivre avec même des morceaux de gènes qui circulent, enfin d'informations qui circulent avec les animaux, avec l'environnement? Est-ce qu'il n'y a pas une conception de la vie qui, en effet, s'ouvre sur toutes ces relations, toutes ces expériences?
Franchement, Frédéric Vance, je m'adresse aussi à Bernadette. Je trouve que l'idée que voilà, on a violé la nature, on l'a secouée d'une telle manière qu'elle se venge, de nouveau, on tombe dans une espèce d'anthropomorphisme et de mythe de la nature qui se drape dans des voilà dans une révolte que elle nous soumet avec les avec les chauves-souris etc. Je suis pas sûr du tout hein. Quand on regarde, enfin, il faudra regarder de près, mais l'histoire du sida, par exemple, c'est une histoire bien souvent plus ancienne qu'on ne le croit, l'histoire de la syphilis plus ancienne qu'on ne le croit. Et donc, dire que, voilà, nous avons, nous, humains, perturbé la nature, ses relations complexes entre les différents éléments qui la constituent pour arriver à la crise actuelle, moi, je trouve que c'est un peu un raccourci que je n'apprécie pas beaucoup personnellement.
Ça nous rappelle, en tout cas, c'est peut-être ce que vous vouliez dire, Bernadette Binceau de Vincent, ça nous rappelle quand même que, bien sûr, il faut traiter scientifiquement cette maladie, hein, et son fonctionnement chimique, génétique, et les traitements pour y répondre. Mais malgré tout, ça nous rappelle notre précarité de vivant. Ça nous rappelle quand même que, l'exception humaine, comme disent certains, qui existe sans doute, mais est fragile et vulnérable, Bernadette Binceau de Vincent. Comment est-ce que vous répondriez à cette...
Oui, c'est un peu le sens c'était le sens de ma question. Il me semble que ce que cela révèle sur la vie, enfin, sur nos conditions de vie, c'est que nous vivons toujours en relation avec une foule d'autres êtres, notamment des microbes, des plantes, des animaux, etc. Donc nous faisons en quelque sorte que notre intelligence de la vie ne se limite pas à l'intelligence de l'organisme, mais à tout ce qu'on appelle aujourd'hui une sorte d'écologie du vivant. Et c'est dans ce sens-là que peut-être cette crise pourrait renouveler un petit peu les recherches sur le vivant. C'était un peu ça que j'avais dans l'idée.
En tout cas, est-ce que vous pensez, Pierre Corvol, vous aussi, que cette crise a réorienté la recherche tout à coup? Et est-ce que vous pensez que c'est légitime, au fond? L'académie que vous présidez, l'Académie des sciences, celle dont vous faites partie aussi, l'Académie de médecine et l'Académie nationale de pharmacie aussi, on produit ensemble un avis sur les essais cliniques. Vous constatez qu'il y a eu, évidemment, sous la pression de l'urgence, il y a eu des dizaines, beaucoup plus peut-être, d'essais cliniques lancés à toute allure. Vous rappelez qu'il faut respecter les principes. Est-ce que vous pensez, pour reprendre ce que disait Bernadette Binceau de Vincent tout à l'heure aussi, que cette orientation de la recherche par l'urgence, par les besoins, vous êtes vous-même médecin, bien sûr, est-ce que vous pensez que c'est légitime? Est-ce que vous pensez qu'il y a un risque et que le virus oriente, enfin le virus, vous avez bien rappelé qu'il n'existe pas, qu'on l'anthropomorphise, mais disons que les humains affectés par ce virus avec lequel ils entrent en relation, par lequel ils sont perturbés quand même très profondément, est-ce que vous pensez que c'est légitime que la science réponde comme ça, dans l'urgence?
Oui, je pense que là... Je dirais qu'il n'y a presque pas de discussion possible. D'ailleurs, je ne pense pas que les gens qui se sont mis tout de suite à travailler, chinois au passage, les premiers américains, européens, quand ils ont travaillé sur la structure du virus, essayer de comprendre son mécanisme d'action, comment il rentre dans les cellules pulmonaires ou les autres, ils ont fait un travail fantastique en un très très peu de temps. C'est absolument superbe. Ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps, cette réponse a été bien supérieure à la réponse quasiment inexistante des autres infections à coronavirus de notre siècle. Il y en a eu quand même deux.
Qu'on a laissé passer, finalement.
Ah bah oui, le SRAS et le MERS, qui sont deux infections à coronavirus, mais comme ces infections affectaient beaucoup moins de patients, il n'y a pas eu de recherche fondamentale là-dessus. Sur le MERS, qui reste très confiné, Dieu merci, en Arabie Saoudite ou dans ces régions-là, mais qui est très dangereux. 50% de mortalité quand on est infecté par le MERS. Il n'y a pas eu une recherche. Donc finalement, et ça on peut le regretter, parce que nous n'avons aucun médicament spécifique pour le coronavirus à l'heure actuelle. Aucun médicament.
Et finalement, ça rejoint aussi un peu ce que disait Bernadette Binceau de Vincent tout à l'heure, c'est-à-dire finalement, la recherche devrait anticiper sur des crises, pas forcément les attendre. Là, si ce virus dont vous parliez, dont moi je connais le SRAS, mais j'avoue que le MERS, je le connais moins, si jamais il venait à se répandre, tout le monde dirait, mais enfin, on le savait, personne n'a rien fait. Comment est-ce qu'on fait, Pierre Corvol, pour à la fois préserver l'éthique de la science dans l'urgence, quand elle arrive comme ça, tous ces essais cliniques économique à toute allure. Vous montrez quand même que c'est possible, vous y voyez même quelque chose de positif. Et en même temps, comment est-ce qu'on fait pour anticiper? Là, vous dites, il faudrait travailler sur ce virus. Un jour, peut-être que par un avion, par la mondialisation, ces changements de conditions de vie, il va se répandre. On dira, on le savait, on n'a rien fait.
Frédéric Blanc, vous posez une question très difficile pour ceux qui doivent faire la politique de la recherche, parce qu'on vient de discuter de la nécessité absolue d'avoir une recherche libre, voilà, et on a
qui définit ses objets.
Voilà, exactement. Mais en même temps, il faut savoir garder, je dirais, une compétence dans beaucoup de secteurs, et donc avoir la lucidité. Mm-hmm. Comme par exemple à l'Institut Pasteur, hein, je fais la promotion quand même d'un institut français particulièrement important qui était à l'origine de la découverte du sida. Il y avait des gens qui étaient là, armés, mm-hmm. Je veux dire, pour faire ce type de travail. Et à l'heure actuelle, à Pasteur, on travaille fort sur le virus, sa mécanisation, il y a un vaccin Pasteur qui est en train de se développer. Donc ça me semble très important de ne pas faire une recherche complètement pilotée par les impératifs, impératifs peut-être pas, mais du moins une projection financière, mais garder un savoir-faire de façon intelligente. Et je me rappelle très bien, il y a eu un moment, il y a à peu près une vingtaine, une trentaine d'années, il n'y avait plus de recherche sur les antibiotiques. Et je me rappelle très bien à la Fondation pour la Recherche Médicale que nous avions fait une politique de bourse.
Là-dessus.
Absolument. On a fait une politique de bourse, d'incitation à pour que les jeunes aillent se former sur ces secteurs que nous pensions déshérités. Et on se retrouve quand même avec un grand problème de résistance aux antibiotiques.
Bernadette Binsot-Vincent, vous-même, vous êtes philosophe, philosophe des sciences. Vous avez alerté aussi sur des sujets qui vous paraissaient devoir être critiqués dans certaines avancées scientifiques, comme les nanotechnologies ou d'autres, ou bien sur l'environnement, bien sûr. Est-ce que vous pensez que le débat social autour de la science, justement, la participation des citoyens, mais aussi des épistémologues, des historiens, des sociologues peut-être, peut aider les médecins à orienter leurs recherches, peut aider à ce débat vraiment de fond sur d'anticipation aussi, sur la définition de ce sur quoi on doit travailler.
Oui, je pense que l'exemple du sida qui a intégré les associations de malades dans la définition des programmes de recherche et des essais cliniques a été une grande innovation. Et que ça commence à se faire en France, ça se fait à l'INSERM notamment, mais c'est vraiment quelque chose à développer. Et en particulier, je pense que tous les débats auxquels Frédéric Worms faisait allusion sur la nécessité d'encadrer les essais cliniques aujourd'hui pour les traitements du coronavirus et les vaccins. Parce que le débat sur les vaccins va être colossal
oui,
dans les mois à venir. C'est important. C'est important comme l'ont fait
quand les... Quand vous dites débat sur les vaccins, c'est auquel est-ce que vous pensez en particulier le débat
les différents vaccins qui sont à l'étude aujourd'hui. Bon, on a beaucoup parlé de celui d'AstraZeneca récemment, mais d'une manière générale. Mm-hmm. Et je crois que pour bien encadrer ces recherches et les essais cliniques qui vont être faits, il est important de rappeler, comme le font les cinq académies, que ces essais doivent être suivre les normes. Mmh. Et ça, c'est très, très important.
Même dans l'urgence, il faut être fiable.
Même dans l'urgence, et il faut d'autant plus dans l'urgence être fiable, qu'il y a de très, très gros enjeux, surtout dans une période où le complotisme va bon train sur Internet, où on prétend que AstraZeneca est financé par je ne sais pas qui, qu'il est de mèche avec les États-Unis. Enfin, on lit n'importe quoi, des choses purement imaginaires. Donc, il faut être extrêmement vigilant. Mais de mon point de vue, être extrêmement vigilant et suivre, rappeler que on doit prendre le temps, qu'il doit y avoir des groupes témoins, etc., etc. C'est important. Mais il serait encore plus important que les scientifiques essayent de comprendre, et les médecins, essayent de comprendre les problèmes liés aux vaccins et à la peur des vaccins dans le public. Et je crois que le vaccin n'est pas simplement un objet technique, un objet médical, il y a des grosses valeurs associées au vaccin. Mmh. Il y a des valeurs, par exemple, la valeur de la santé de la population, qui passe avant la santé de l'individu qui se fait vacciner. Or, c'est ces valeurs-là qui font défaut dans notre société aujourd'hui. Et donc, je pense que là, pour répondre à votre question, Frédéric Worms, oui, les philosophes, les anthropologues, les sociologues peuvent apporter des éclairages qui seront utiles pour négocier cette phase.
On va revenir dans la suite de cette discussion sur justement le débat social dont la science ne doit pas avoir peur, selon aucun de vous deux d'ailleurs, mais qui est quand même si difficile à mener autour des enjeux scientifiques et pour précisément l'encadrer et que la relation entre la science et la société renforce l'une et l'autre, j'allais dire, face à leurs dangers propres. L'isolement des savants et puis aussi les dérives de la société face à la science et ses appréhensions incroyable aujourd'hui face au vaccin. Mais auparavant, la deuxième pause musicale, celle proposée par Pierre Corvol, est une chaconne pour violon de Jean-Sébastien Bach. À présent,
Frédéric Worms.
À présent, la science au cœur du présent. Nous en discutons avec Bernadette Binceau de Vincent et Pierre Corvol, qui nous a proposé une chaconne de Jean-Sébastien Bach, interprétée par Frédéric Moreau. Nous discutions de savoir si la crise du coronavirus, qui a accéléré la place de critique de la science au cœur du présent, l'a fait pour le meilleur ou pour le pire. J'ai l'impression que l'un et l'autre, Bernadette Binceau de Vincent et Pierre Corvol, vous pensez qu'il y a aussi une chance à saisir, à la fois pour, disons, la recherche scientifique elle-même et pour sa place dans la société. Mais disons un petit mot des risques, malgré tout. Pierre Corvol, vous m'aviez dit que vous ne vouliez pas que nous parlions trop des débats sur les dérives scientifiques ou, disons, la façon dont la société aussi a durci un débat intra-scientifique au départ, l'a emporté vers une dérive, même où on n'est plus dans un débat entre scientifiques, mais parfois dans un débat pour ou contre la science. Il faut quand même en dire un mot. Comment se fait-il que, d'après vous, même si la crise peut être une chance pour la science, comment se fait-il qu'elle est aussi à ce point mise en cause et qu'il y ait maintenant des adversaires de la science, des défenseurs de la science? Est-ce que ça, c'est pas un peu quand même effrayant pour vous, Pierre Corvol?
Ah oui, c'est certainement, parce que c'est en même temps un indice très fort d'une inculture quand même quelque part scientifique. Il faut quand même dire les choses comme elles sont, je le crois en tout cas. Et quand on voit que certains, c'est pas uniquement ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir une une formation scientifique. Certains politiques ont été jusqu'à proposer des sondages pour savoir si on devait se traiter ou pas. Enfin, je veux dire, on rêve. La science se fait à coup de sondage maintenant. Non, mais c'est pas possible. Donc, si vous voulez, ça, c'est vraiment quelque chose qui est dramatique. Et on se dit qu'il y a un travail considérable à faire de formation, mais qui ne suffira pas. Manifestement, c'est comme pour les vaccins. Ça ne suffit pas de dire, voilà, on protège. Oui. D'accord. Je crois qu'il y a... nécessité de s'arrêter sérieusement, de travailler avec les sciences humaines et sociales. Moi, je trouve que c'est absolument dramatique que nous ayons, par exemple, en termes d'académie, une académie des sciences qui n'est pas dans son académie d'anthropologue.
Ce qu'on appelle les sciences morales et politiques qui relèvent d'une autre académie dans l'Institut de France.
Mais bien sûr.
Dépassons donc ces clivages. Mais alors, Pierre Corvol, juste encore un mot là-dessus. Vous avez travaillé sur l'intégrité scientifique, dans la recherche scientifique, sur aussi évidemment les applications éthiques, l'éthique des essais cliniques et les applications. Est-ce que vous pensez que le savant doit aussi s'interdire de se laisser récupérer par les autres discours, par les discours politiques qui peuvent... Parce que le danger aujourd'hui, dans ce débat science et société, c'est aussi qu'un débat scientifique, au fond normal, même avec des dérives possibles, soit pris dans d'autres débats idéologiques au sens beaucoup plus large.
Bien sûr, moi je crois qu'il faut bien revoir ce qui est quand même le fond de notre métier, c'est la controverse, mais la controverse scientifique. Mmh. Il y a les vraies controverses, il y a les fausses controverses. Hélas, nous sommes entourés de fausses controverses avec l'hydroxychloroquine, etc. On n'en parlera pas plus, mais c'est une fausse controverse. Elle est réglée. C'était pas évident au départ. Il y a des vraies controverses, alors à ce moment-là, qui néanmoins sont importantes à considérer dans la gestion de la crise sur le plan scientifique. Il y a toujours eu des controverses en science.
Des controverses totalement légitimes sur le rôle des savants dans le pouvoir, dans la décision publique. Par exemple, pour vous, c'est une controverse légitime, ça?
Moi, je pense que c'est une controverse légitime. À partir du moment où on donne accès aux scientifiques, à une parole auprès des politiques, je crois que c'est vraiment important qu'ils se posent la question de la manière dont ils vont manifester leur opinion. C'est absolument essentiel. Et qu'en même temps, le politique,
ne confonde pas les rôles, assume son rôle.
Assume son rôle. On l'a dit et répété, je crois que le conseil scientifique donne des conseils. Le politique, lui, c'est lui qui décide. Et Dieu merci pour un scientifique, ne pas décider dans un cas comme le Covid-19, c'est quand même quelque chose de rassurant. Il peut donner des conseils, éclairer, etc. Mais je pense que chacun doit rester là où il est. Mais en même temps, nous n'avions jamais eu des débats peut-être aussi forts dans notre...
Et en temps réel, en direct.
En temps réel, absolument. Nous avons vu... Je crois que c'est Le Coutelet qui dit volontiers qu'on assiste à la science qui est en train de se faire et que c'est une occasion merveilleuse de regarder comment ça se déroule. Mais c'est vrai, et y compris effectivement les rôles de chacun, du politique, du scientifique, du gestionnaire, des politiques administratives de santé publique. Tout cela va être analysé aujourd'hui en temps réel. Mais je pense qu'il faudra qu'on se revoie dans une émission, si Dieu nous prête vie, dans un an, parce que ce sera encore plus intéressant de voir.
On sera encore dans le temps réel, dans une crise ou une autre, et peut-être celle-ci encore, Pierre Corvol, puisqu'il y a 6 mois, on pensait qu'elle serait finie, et on y est encore. Mais c'est vrai, donnons-nous rendez-vous. Mais alors, Bernadette Binsaud-Vincent, pendant la crise, justement, à un moment de la crise, puisqu'on y est encore, vous aviez écrit un article intitulé « Science, pouvoir et opinion face à la pandémie ». Vous avez aussi co-rédigé une tribune pour un dialogue entre science et société. Vous n'êtes pas surprise par ces branchements très dangereux, parfois, entre la science et l'idéologie. Est-ce que vous proposez pour y faire face, un peu en complément de ce que disait Pierre Corvol, c'est quand même justement de l'assumer, là aussi, et de l'encadrer, de revendiquer le débat social autour de la science?
Oui, je pense que quand on a fait un tout petit peu d'histoire des sciences, on a une vision de la frontière entre science et idéologie ou science et politique beaucoup plus poreuse que quand on est scientifique. Je pense qu'il y a maintes exemples où on voit comment le politique et le scientifique ont interféré. J'en donne un seul que un collègue britannique m'a rapporté. C'est pas la première fois qu'il y a une controverse publique sur le chlore pendant une épidémie.
Le chlore qui est dans la chloroquine.
Le chlore qui est dans la chloroquine. Le chlore est vraiment un élément à controverse, à fomenter des controverses. Et en particulier pendant l'épidémie de grippe dite espagnole, il y a un siècle, il y a eu aux États-Unis une énorme controverse parce que il y a eu une campagne en faveur du traitement des chambres à chlore. Parce que d'inhaler un petit peu de chlore, eh bien, ça arrêtait la toux. Et donc, les congressmen, 170, se sont prêtés un essai clinique. Le président même des États-Unis a été guéri, paraît-il, par ce traitement.
Décidément, la présidence des États-Unis et le chlore, il y a une relation.
Il y a eu des pressions énormes dans la presse pour que les chambres à chlore soient accessibles à tout le monde, pour que ce soit démocratisé. Et voilà, et alors il s'avère aux yeux de mes collègues historiens que c'était une campagne menée par le Chemical Warfare Service qui voulait refourguer le chlore qu'on avait utilisé pour les armes chimiques pendant
dans
la
les tranchées
guerre,
de la Première Guerre mondiale.
Et que ils ont arrêté cette campagne que parce qu'ils ont trouvé d'autres débouchés pour le chlore qui avait été fabriqué, qui étaient des débouchés d'insecticides.
Incroyable. Mais alors, qu'est-ce que vous en concluez, Bernadette? Comment est-ce qu'on répond à ça? Comment est-ce qu'on assume ça?
Je pense que la frontière, il faut le reconnaître, elle est souvent... On est toujours en controverse. La science n'avance que grâce à la controverse, il faut être honnête. Et ces controverses ne doivent pas rester peut-être cantonnées dans les académies. Ces controverses doivent aller sur la place publique et faire confiance aux moyens que les scientifiques auront de résoudre, parce que justement ils exercent l'esprit critique. Et donc ne pas avoir peur, ne pas être timoré d'aller devant la place publique.
Mais la place publique, alors on sait que la place est une institution, la rue aussi, qui est encadrée par des règles, on ne peut pas faire n'importe quoi dans une manifestation de rue, mais néanmoins entre les académies qui ont un rôle central, comme beaucoup d'autres institutions, et la place publique, vous proposez aussi ce que vous appeliez d'une formule très frappante maintenant, un forum hybride, c'est-à-dire pas hybride distanciel, présentiel, mais science, société. C'est donc quand même une institution que vous voulez quand même... voilà, la place publique, ça peut être des manifestations, mais le forum que vous souhaitiez, c'était plutôt quand même une instance avec intégrant le public, intégrant les opinions, mais quand même publique, justement une instance publique instituée par les institutions politiques.
Oui, les forums hybrides existent depuis longtemps. Ce sont des instances, en effet, qui ont été en particulier beaucoup promues par Michel Calon en France. Et il y en a de multiples exemples. Et ce sont effectivement, ça obéit à des règles, et ce sont des vrais forums où on peut discuter d'une controverse et débattre d'une controverse et qui mettent en scène des experts de plusieurs disciplines, ça c'est important, et des gens, ce que j'appelle des gens de terrain. C'est-à-dire qui respectent le fait qu'il y a un savoir qui émane du terrain, que par exemple dans le cas de la crise que nous traversons toujours, eh bien les infirmiers, les soignants ont un savoir à apporter qui est différent du savoir des médecins ou du savoir des chercheurs sur ce virus, que les enseignants ont un savoir à apporter aussi pour...
Sur les mesures pertinentes
sur les
aussi,
mesures
de
pertinentes,
santé publique.
Etc. Et donc c'était ça l'esprit des forums hybrides proposés durant la crise, c'était de mobiliser ces savoirs multiples et de les laisser s'exprimer sur des cas concrets. L'idée étant qu'il faut travailler sur des cas concrets et sur des localités précises et pas en général.
Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre Corvol, vous qui présidez l'Académie des sciences, mais je ne veux pas vous enfermer dans ce rôle, hein, mais comment est-ce que vous voyez disons l'architecture du débat et les institutions qu'il faut mettre en place pour qu'ils permettent la confiance dans la science qui est nécessaire?
Moi, je crois fondamental, encore une fois, je reviens sur le mot participation. Là, ce que vous décrivez sur les forums hybrides, c'est quand même une participation. Ne pas écouter d'abord celui qui est concerné, c'est-à-dire le patient, c'est une faute majeure. On a énormément à apprendre. Quand vous êtes vous-même malade et médecin, vous avez une finesse de la sémiologie qui est absolument unique, je peux vous le dire. Et donc, vous pouvez repérer justement ce que les autres ne repèrent pas, parce qu'on a une vue schématique de la maladie. On est malade, on n'est pas malade, on est très binaire. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et donc, si vous voulez, si on va un peu plus loin, je prends là un exemple simple. Il faut que les académies s'intéressent à ça. Et à l'Académie des sciences, on a reçu justement les patients, les associations de patients qui s'intéressent à ces questions-là. On a parlé de patients experts. Il y a même un statut de patient expert qui est en train de se créer dans 4 ou 5 facultés de médecine.
Et est-ce que vous pensez, Pierre Corvol, alors que cette crise peut permettre d'accélérer ces instruments de la confiance, cette prise en compte peut-être dans des institutions malgré tout spécifiques, et puis aussi comme il y a des évaluations un peu spécifiques qui ont surgi, plus rapides pour des papiers scientifiques, finalement on n'est pas dans le tout ou rien, dans des institutions calmes et pures d'un côté, ou dans une crise sauvage, on est capable de construire des relais.
Oui, on a construit des relais, notamment Frédéric Worms, sur le plan de la publication. Je trouve que il y a possibilité d'utiliser des plateformes numériques qui sont utiles, que les médecins utilisaient très peu, les biologistes un peu, beaucoup les physiciens et les mathématiciens. Et alors là, on a exactement les deux faces de bonne et moins bonne. Moi, je commence par la face mauvaise, disons, qui est qu'il y a un surplus finalement de papiers non publiés qui peuvent être utilisés par les médias pour aller un peu vite dans les conclusions. Ouais. D'un autre côté, c'est un partage d'informations rapide et qui permet d'avancer sur nos connaissances de cette maladie.
Écoutez, malheureusement, le temps nous presse et j'espère qu'on reprendra cette discussion dans un moment où vos propositions auront permis de résoudre nos problèmes. Merci beaucoup à vous deux. La science au cœur du présent, ce soir, avec Bernadette Binceau-de-Vincent, Pierre Corvol, avec aussi et grâce à Sandrine Chaperon, Catherine Donnet, Marie Lepin, Anne-Pascale Desvignes, Frédéric Worms. À vendredi prochain, toujours à 21h. Bonsoir.